Le grand témoin.
Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Grand témoin, le plaisir de vous présenter aujourd'hui l'ambassadeur Luc Alade, ambassadeur de France en RDC qui est plein mandat. Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est un plaisir.
Alors avec vous, dans notre entretien, nous allons vous présenter auprès des auditeurs de Radio Capi qui nous suivent en ce moment. Je l'ai dit, vous êtes plein mandat. Ambassadeur de France en RDC depuis 2011, vous allez nous parler de votre expérience en tant qu'ambassadeur en RDC. Vous êtes arrivé en 2011, au mois de juillet. La RDC s'est préparée aux élections présidentielles. Vous nous parlerez de ce moment, comment vous avez vécu tout ce moment-là, avec toutes les turbulences qu'il y a eu autour de ces élections, mais aussi les relations entre la France et la RDC. On sait qu'en 2012, vous avez soutenu la francophonie qui s'est déroulé ici à Kinshasa. Mais avant, on va faire un grand point en arrière pour parler de votre passé, de votre enfance. Vous êtes né un certain 8 mai 1957 en France, j'imagine.
Absolument.
Vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, mais vous avez également un diplôme de l'école du commissariat de la marine, ainsi qu'une maîtrise en droit. Ça fait pas trop des diplômes, là?
Je ne sais pas si on peut dire qu'on n'a jamais trop de diplômes. Malheureusement, ça commence de toute façon à remonter maintenant à un certain temps, puisqu'effectivement, j'ai été diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris en 1977. Après, j'ai passé une licence de droit en 1978. Je suis rentré dans le commissariat de la marine. J'ai repris mes études un peu plus tard pour passer une maîtrise de droit en 1986, de mémoire. Donc, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on a trop de diplômes, ni d'ailleurs que les diplômes qu'on a souvent tendance à étaler, si vous passez cette expression, soient forcément l'essentiel. Avoir une bonne formation de base, c'est quelque chose d'important pour tout le monde, quel que soit le métier ou la spécialité dans laquelle vous exercez. Mais au-delà de ça, c'est aussi l'expérience et puis la personne qui importe, et savoir adopter les bons comportements. Je ne prétends pas forcément qu'on est parfait, loin de là, mais savoir adopter les bons comportements et puis tirer profit de l'expérience de la vie personnelle et professionnelle. Et j'ai exercé beaucoup de fonctions très différentes dans des cadres assez différents, que ce soit dans la marine nationale au départ de ma carrière, puis dans la coopération, puis dans la diplomatie. Donc ça m'a donné l'occasion de pas mal voyager, notamment sur le continent africain où j'ai fait quasiment l'exclusivité de ma carrière en diplomatique et en coopération.
Vous avez passé beaucoup plus de temps en diplomatie. C'est vrai qu'à 21 ans, vous avez commencé à travailler au sein du ministère de la Défense.
Oui, mais j'ai travaillé au total 9 ans au sein du ministère de la Défense, les deux premières années étant des années de formation, notamment avec l'école d'application, comme on l'appelait à l'époque, la Jeanne d'Arc, et puis qui m'a d'ailleurs procuré mon premier contact physique avec le continent africain, puisque les deux premières escales de la campagne de la Jeanne d'Arc étaient à Dakar et à Abidjan à l'époque, et je ne me doutais pas qu'un jour je reviendrai exercer mes fonctions sur le continent africain dans d'autres cadres. Et puis après, j'ai effectivement bifurqué vers la coopération française, où j'ai travaillé pendant une dizaine d'années avant d'être intégré au moment de la fusion des deux ministères au ministère des Affaires étrangères et de poursuivre ma carrière dans la diplomatie. Donc ça fait en gros 3/4 de carrière assez équilibrée et qui m'ont permis d'avoir une expérience, je pense, assez diversifiée, en tout cas enrichissante.
Alors Dakar et Abidjan, c'était la première fois pour vous d'arriver en Afrique.
Absolument.
Et comment vous avez trouvé ce continent lorsque vous avez posé vos pieds pour la première fois?
Ben écoutez, d'abord c'était assez bref, puisque c'était des escales de la Jeanne d'Arc, donc ça ne dure que quelques jours. Ça m'a beaucoup marqué, d'autant plus que dans la promotion des commissaires de la marine, à laquelle j'appartenais, les promotions sont toutes petites dans le commissariat de la marine, qui a d'ailleurs été depuis peu intégré au sein des commissariats aux armées. On avait des stagiaires africains, enfin des collègues africains qui faisaient les mêmes études et la même formation que nous, dont certains ont embarqué sur la Jeanne d'Arc avec moi, enfin en même temps que moi. Et donc j'avais notamment 4 Ivoiriens et un Malgache dans la promotion de l'école du commerce de la marine à laquelle j'appartenais. Et donc on avait évidemment beaucoup échangé, beaucoup discuté, et j'avais hâte de découvrir par moi-même leur pays et qu'ils me servent un peu de guide. Une chose m'a frappé, à titre un peu anecdotique. Quand je suis arrivé, la première escale était Dakar, évidemment, géographiquement, et ensuite Abidjan, et ensuite on a traversé l'Atlantique pour aller en Amérique latine. Mais quand je suis arrivé à Dakar, une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que il y avait à l'époque, j'espère que je ne vais froisser aucun de vos auditeurs, mais il y avait à l'époque, à Dakar, parce que c'était quand même en 79, beaucoup de ce que nos amis africains appellent quelquefois les vieux blancs. Et même quelquefois, ils rajoutent les vieux blancs boucanés. et j'ai été frappé par une chose qui m'a un peu... un peu fait de peine, c'est que quand on écoutait les discours, pas tous évidemment, heureusement, mais d'un certain nombre de ces, comme disent nos amis africains, vieux blancs boucanés, on avait l'impression qu'ils étaient là depuis très longtemps et que pour autant ils n'étaient pas toujours très bien intégrés dans le contexte ou la population locale, car la relation avec la population locale n'était pas forcément optimale. Et encore une fois, j'ignorais totalement à ce moment-là que je reviendrais un jour exercer des fonctions en Afrique, mais je me suis dit à moi-même que bon, si un jour je devais effectivement être dans une situation analogue, j'espère avoir échappé au syndrome du vieux blanc boucané, mais en tout cas essayer, dans la mesure du possible, d'avoir des relations un peu plus ouvertes et confiantes avec la population et l'environnement dans lequel on travaille, parce que même si on est ici dans un beau bureau climatisé, c'est-à-dire l'essentiel de la vie n'est pas ici, mais est à l'extérieur, et il faut essayer aussi de percevoir
avec la population.
Absolument.
Alors après votre passage à Dakar et à Abidjan, vous êtes rentré à Paris où vous êtes affecté au ministère des Affaires étrangères.
Oui, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Dakar et Abidjan, c'était des escales de la Jeanne d'Arc, après quoi j'ai commencé une carrière professionnelle dans la Marine nationale, et puis après quoi j'ai été d'abord mis à disposition à la préfecture de la Réunion comme chargé de mission pour la coopération régionale auprès du préfet de région, la Réunion, et comme vous savez peut-être, la France, au titre de son département d'outre-mer, la Réunion fait partie de la commission d'océan indien, et donc c'était un dossier dont je me suis beaucoup occupé à l'époque. Et puis ensuite j'ai continué ma carrière au sein du ministère de la coopération, d'abord à l'île Maurice, au secrétariat général de la commission d'océan indien, puis à Bangui comme conseiller de mission de coopération, puis à Abidjan, ensuite je suis reparti à Paris, je suis revenu en Afrique au Cameroun, puis ensuite je suis venu en RDC, je suis reparti comme ambassadeur aux Comores, et je suis revenu ici comme ambassadeur en 2011.
Alors, on va s'arrêter d'abord en 2003.
Je finis simplement, maintenant, je viens d'être nommé ambassadeur délégué à la coopération régionale en océan indien, donc vous voyez que je fais une boucle, en quelque sorte. Je ne sais pas si on pourra dire après que la boucle est bouclée, mais en tout cas, j'ai fait une espèce de boucle circulaire autour de l'Afrique qui est assez amusante quand on regarde un peu dans le rétroviseur.
Alors, en 2003, vous posez vos valises en RDC comme premier conseiller. Vous aviez déjà entendu parler de la RDC ?
Oui, un peu. D'abord, la RDC, c'est un énorme et un immense pays au cœur du continent africain, donc on peut difficilement travailler, s'intéresser à l'Afrique sans entendre parler de la RDC. Et puis, malheureusement, c'est un pays qui a connu beaucoup de vicissitudes, qui a été marqué par une histoire politique agitée, régime, notamment, au lendemain de l'indépendance, puis le régime Mobutu, puis la fin du régime Mobutu, puis l'arrivée de la FDL, la prise de pouvoir par le président Kabila, puis son assassinat, puis l'arrivée au pouvoir de son fils. Donc tout ça fait que effectivement c'est un pays dont on entend forcément parler quand on s'intéresse à l'Afrique, au minimum, et qui a encore une fois connu tellement d'histoires agitées qu'on peut difficilement ne pas savoir au moins quelques éléments de l'histoire de la République démocratique du Congo. Et puis quand on m'a proposé de venir à l'époque comme premier conseiller, j'étais en poste au Cameroun à ce moment-là, et je me suis renseigné auprès de collègues. J'avais des collègues qui étaient en poste ici, que je connaissais, d'anciens aussi comme moi du ministère de la Coopération, et puis des gens qui étaient en poste au Cameroun mais qui venaient de temps en temps faire des missions d'expertise ici. Et on m'a dit, encore une fois, pour l'anecdote, mais c'est ça qui est quelquefois le plus amusant, on m'a dit que Kinshasa était une ville très polluée. J'étais un peu surpris. C'est vrai que quand on est à l'extérieur, alors je ne sais pas, je n'ai pas mesuré le degré de pollution depuis que je suis arrivé ici, mais c'est vrai que, bon, quand on circule dans les rues, on voit effectivement que les bus font beaucoup de fumée, alors peut-être que ça alimente la pollution, les gaz à effet de serre, comme on dit, mais ce qui est frappant quand on arrive ici, c'est la dimension de la ville, l'importance de sa population, et donc, si on peut dire, sa grouille de vie. Les gens vivent souvent dans des conditions difficiles au demeurant, mais c'est une mégapole, et ça sera encore plus demain, dans les 10, 15, 20, 30 ans à venir, et c'est destiné d'ailleurs, sur la projection démographique, à devenir probablement la première ville d'Afrique en termes de population. Et donc c'est vrai qu'on change de dimension quand on arrive en RDC, à la fois pour le pays lui-même, et compte tenu de son importance, sa superficie, mais même à Kinshasa. C'est une ville énorme. Je sais que, j'espère que vous n'avez pas trop d'auditeurs en face, parce que nos amis congolais d'ici, quand ils vont à Brazzaville, disent qu'ils vont au village. Donc on voit bien qu'on a deux villes les plus proches, deux capitales les plus proches du monde, dont l'une par rapport à Kinshasa, et c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, mais à l'aspect d'une petite ville de province, quand on arrive ici, ou quand on arrive d'ici, on vient d'une mégalopole extraordinaire, avec des quartiers dans tous les sens, une étendue très vaste, et puis une population très active, débrouillarde, etc. Le contraste est assez frappant.
Alors, en quoi consistait exactement votre travail en 2003?
Ben, en tant que premier conseiller, traditionnellement, on est l'adjoint d'ambassadeur, donc son principal collaborateur, ce qui veut dire qu'on s'occupe particulièrement de la gestion interne de l'ambassade, du personnel, des problèmes administratifs, des problèmes matériels, logistiques, de maintenance, etc. Donc tout ce qui concerne la gestion de la boutique ambassade, entre guillemets, ou de la PME ambassade. Et puis, on a aussi une fonction qui, dans un pays comme celui-ci, est importante, c'est qu'on est officier de sécurité. Ça veut dire qu'on est responsable d'organiser la sécurité non seulement de l'ambassade, mais de l'ensemble de la communauté française dans le pays considéré. Et j'ai eu, je ne sais pas si je dois dire malheureusement, mais en tout cas ça fait partie de l'expérience professionnelle que j'ai acquise, j'ai eu à gérer, comme vous pouvez l'imaginer, dans cette époque qui a été un peu troublée, des questions de sécurité un peu délicates pour l'ambassade, mais surtout pour la communauté française, notamment quand il y a eu des affrontements en pleine ville à la Gombe. C'était pas toujours très, très simple, qu'il a fallu évacuer les élèves de l'école française. Enfin bon. Donc tout ça a fait que j'ai eu une expérience à la fois de fonctionnement d'une ambassade, en tant que responsable du bon fonctionnement de l'ambassade, pour essayer de soulager l'ambassadeur de ses questions un peu matérielles, et lui laisser s'occuper de tout ce qui est diplomatique et politique. Et puis aussi, des questions de sécurité assez lourdes, qui m'ont très vite sensibilisé à l'importance de cette dimension-là de notre action.
Vous avez fait 4 ans en RDC comme premier conseiller, et en 2008 vous êtes promu et envoyé aux Comores. Une année après, les autorités comoriennes ont demandé votre départ. C'était pour quelle raison?
Ça, c'est une présentation qui a été faite dans les médias. Je vois que vous avez bien préparé votre interview, mais qui est un peu excessive. Je ne crois pas, en tout cas j'ai pas eu connaissance d'une demande formelle, parce que dans la diplomatie il y a quand même un certain formalisme, d'une demande formelle des autorités comoriennes quant à mon départ. En revanche, il y a eu très certainement effectivement des démarches disant que j'étais peut-être pas assez souple aux yeux de certaines de ces autorités, au moins. Vous le savez, c'est évidemment pas un secret, on a avec les Comores des relations proches, certes, mais aussi compliqué par le fait qu'il y a une des 4 îles de l'archipel, au sens géographique du terme comorien, qui a décidé au moment du référendum sur l'indépendance de demeurer française, Mayotte en l'occurrence. Et donc, cette question est un irritant lancinant et récurrent dans nos relations avec les Comores, puisque les Comores revendiquent la souveraineté sur Mayotte que nous exerçons, et que les Maoris ont choisi effectivement de continuer à rester au sein de la République française, et donc ça crée forcément des tensions récurrentes dans les relations bilatérales qu'on essaie de gérer. Un ambassadeur est aussi payé, j'allais dire, pour ça, justement, gérer les difficultés éventuelles. Mais c'est clair que selon les périodes ou les moments, ces tensions peuvent être plus ou moins fortes, plus ou moins importantes, et qu'en l'occurrence, ça correspondait, l'épisode que vous évoquez, correspondait à une époque où effectivement il y a eu quelques tensions sur les relations entre les Comores, la France et Mayotte.
Radio Capi, grand témoin.
Grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui l'ambassadeur Luc Allade. Il est ambassadeur de France en RDC, mais fin mandat. En 2011, vous revenez en RDC comme ambassadeur, nommé par le président Nicolas Sarkozy. La RDC s'est préparée aux élections présidentielles et législatives. La situation n'était pas assez bonne, elle était quand même assez délicate. Vous acceptez quand même ce poste-là d'ambassadeur?
Vous savez, après c'est un choix personnel, on ne choisit pas soi-même les pays dans lesquels on est affecté, on demande éventuellement d'être affecté quelque part, et quelquefois ça marche et quelquefois pas. En l'occurrence, j'avais effectivement demandé en premier choix pour un poste d'ambassadeur en Afrique, puisque je suis plus ou moins spécialisé, on va dire, sur le continent africain, de revenir en RDC pour une raison simple. D'abord parce que j'avais beaucoup apprécié mon premier séjour ici, et que j'avais laissé beaucoup de souvenirs, de contacts, d'amis, et d'intérêt pour ce pays. Et puis la deuxième raison, c'est que justement, parce que quand il se passe quelque chose, c'est beaucoup plus intéressant, à mon avis, d'exercer ses fonctions dans un pays où les choses bougent, changent, même quelquefois avec difficulté, ou quelques soubresauts, que dans un pays très tranquille. Après, c'est un choix personnel, d'autres peuvent avoir des motivations différentes, mais moi j'ai toujours pensé que c'était plus intéressant d'être quelque part au cœur, ou en tout cas dans un pays où l'action est permanente, plutôt que dans un pays tranquille où il ne se passerait rien et où on s'ennuierait.
Voilà, non, ces résultats, vous savez tout ce qui s'est passé au pays, hein, le président qui n'était pas d'accord avec les résultats proclamés par la CENI. Comment vous avez vécu ça? Je sais qu'il y a beaucoup d'opposants qui sont venus frapper à votre porte pour déposer leur lettre de mécontentement. Comment vous avez géré ça?
Ben, c'est une situation qui est toujours un peu difficile pour un pays ami et partenaire, parce que effectivement on est sollicité, c'est vrai d'ailleurs, c'était vrai avant les élections de 2011, après les élections de 2011, et c'est toujours vrai aujourd'hui. On est sollicité par les uns et par les autres, qui évidemment défendent leur point de vue, leurs propres intérêts, et leur manière de voir les choses. Et il nous faut essayer, dans la mesure du possible, de garder à la fois une certaine distance, une neutralité, bienveillante certes, mais neutralité, et puis d'écouter chacun, surtout ne pas fermer sa porte aux gens qui veulent venir vous voir et vous exposer leurs problèmes, d'abord parce que c'est comme ça qu'on comprend mieux les tenants et les aboutissants des querelles politiques qu'il peut y avoir au sein d'un pays. Notre objectif, il est constant, et je crois qu'il est partagé avec l'ensemble des partenaires de la République démocratique du Congo, c'est la stabilité du pays et son développement ou son progrès. Dans la mesure où nous sommes un partenaire actif en RDC, membre permanent du Conseil de sécurité, comme vous le savez, la France tient la plume, comme on dit, au Conseil de sécurité concernant les résolutions prises sur la RDC depuis plus de 15 ans maintenant. Donc on a une position importante et influente quelque part dans la vie politique interne de ce pays, et encore une fois, tout en essayant de garder le maximum de neutralité possible, on doit être en mesure, et c'est pour cela que le gouvernement, notre gouvernement nous envoie, on doit être en mesure d'analyser la vie politique du pays, d'essayer de deviner les évolutions possibles, les risques éventuels, et puis de prodiguer à l'occasion, et de manière très modeste, parce que, encore une fois, c'est Dieu merci, pas les pays occidentaux ou internationaux qui dirigent ce pays, mais prodiguer quelques conseils. À l'époque où j'étais premier conseiller ici, c'était l'époque, comme vous le savez, du 1 plus 4, comme on appelait ce régime, et aussi en parallèle du CIAT, Comité international d'accompagnement de la transition. C'était une configuration tout à fait particulière d'un pays en sortie de crise, dont les accords de fin de cessation de conflit avaient prévu la mise en place d'une architecture institutionnelle assez originale, jusqu'au moment où la Constitution a été votée, où les premières élections ont eu lieu. Et cette expérience du CIAD, dans laquelle j'ai siégé à l'occasion en remplacement de l'ambassadeur de France à l'époque, et auquel j'ai pas mal participé, a été quand même une expérience assez originale, on va dire, et enrichissante, parce qu'il y avait un accompagnement, comme le nom l'indique, de la transition. Certains y ont vu une co-tutelle sur la République démocratique du Congo, je crois que c'est un peu excessif comme terme. Et après, on a évolué, Dieu merci, et le pays lui-même a évolué, et l'assistance internationale ou extérieure a évolué, même s'il y a toujours la MONUSCO qui a succédé à la MONUC, mais le mode de fonctionnement des partenaires internationaux a radicalement changé, puisque maintenant on est là, de manière très classique, en accompagnement des efforts de développement du pays, des efforts vers la stabilité, et on n'a pas de conseils officiels, formels à donner, comme à l'époque où j'ai vécu cette expérience du CIAT qui a duré quelques années et qui s'est terminée avec la mise en place des nouvelles institutions.
Mais comment vous répondez à ceux qui vous accusent d'ingérence dans les affaires intérieures de la RDC et surtout des donneurs de leçons?
C'est là aussi un peu, on parlait d'évoquer le cas de Mayotte avec les Comores tout à l'heure, c'est aussi un sujet, pour ne pas dire, enfin, polémique et un peu récurrent. Vous savez, dès qu'un ambassadeur, un diplomate, ou même un pays d'ailleurs, s'exprime sur le pays dans lequel il est accrédité, sur la situation politique du pays, quel que soit le mode d'expression, surtout s'il est public, il n'est pas toujours, et c'est même plutôt l'exception, mais quelquefois il l'est, quasi automatiquement, une des parties qui sera éventuellement pas satisfaite de la manière dont l'expression a lieu ou du du fond de, du propos, va vous accuser d'ingérence dans les affaires intérieures de l'État. C'est quelque chose qui revient de manière récurrente. Je crois qu'il faut, enfin, il faut y être attentif, évidemment, pour justement essayer de ne jamais franchir les lignes rouges qui correspondraient à une ingérence marquée dans les affaires intérieures de l'État, parce que là, on dépasse clairement notre mandat. Mais quand on prétend être partenaire et ami d'un pays, dans un sens comme dans l'autre, hein, c'est une relation bilatérale, ça veut dire qu'on doit aussi être capable, quelquefois, de dire des choses comme on les pense, aussi sincèrement que possible, avec le respect dû à toutes les institutions et aux autorités du pays, mais aussi sincèrement que possible, et puis que le pays partenaire et ami doit aussi être capable d'entendre ou d'écouter, et de faire ensuite ce qu'il en veut, des idées, des conseils, des recommandations qu'ils peuvent faire. Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire à longueur de journée, d'année, de semaine ou de mois, mais de temps en temps, ça peut quand même être utile de pouvoir échanger avec les autorités et avec l'ensemble du spectre politique, et puis s'exprimer sur un certain nombre de questions qui nous paraissent importantes. Il y a un partenariat, c'est forcément exigeant, donc quand on a un partenariat exigeant, ça veut dire que chacune des parties doit être capable de dire à l'autre ce qu'elle pense avec le maximum de sincérité, et en essayant évidemment de préserver les bonnes relations qui doivent servir de base au dialogue.
Alors en 2012, on vous a vu au Nord Kivu pour soutenir les déplacés de guerre lorsqu'il y a eu la rébellion du M23. Quel était concrètement l'apport de la France ?
Ben, je crois que l'apport de la France, il a été au moins double. D'abord en termes humanitaires, et le déplacement que j'ai fait en 2012, et j'en ai fait notamment un, j'en ai fait plusieurs d'ailleurs, mais dont on attend notamment un avec notre ministre chargée de la francophonie à l'époque, Madame Benigni, dans les camps de réfugiés, pour voir dans de quelle manière on pouvait, de quelle manière on pouvait éventuellement apporter une aide parmi d'autres partenaires et donateurs internationaux, parce que évidemment les questions humanitaires étaient malheureusement très importantes à ce moment-là et dans cette région-là. Et puis la deuxième façon dont on a, je crois, j'espère en tout cas, beaucoup aidé la République démocratique du Congo à venir à bout de cette rébellion ou cette agression, c'est justement au Conseil de sécurité des Nations Unies, préparant même des résolutions du Conseil de sécurité qui ont abouti à la mise en place notamment de la brigade d'intervention de la MONUSCO, qui était quand même une avancée assez importante, parce qu'on est passé d'une force de maintien de la paix à une force de mise en œuvre du maintien de la paix active et en soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et je crois que ce soutien a été tout à fait effectif, et là la France a joué un rôle important pour faire passer cette résolution et mettre en place ce nouvel outil. Et je crois que tout ce qu'on a pu faire à l'époque a effectivement aidé, contribué, aux côtés des efforts des autorités congolaises, à ce que, après un an et demi quasiment, on arrive effectivement à mater cette rébellion, cette agression, et ramener les populations là où elles doivent être, c'est-à-dire chez elles.
Alors aujourd'hui, vous quittez la RDC. Est-ce que vous êtes satisfait de votre passage ici en tant qu'ambassadeur pendant 4 ans?
Mais ça serait très, très prétentieux de ma part de porter un jugement et dire je suis satisfait, pas satisfait, etc. Je pense que c'est plutôt à d'autres que moi d'en juger, à la fois mes propres autorités et puis les autorités congolaises et les Congolais eux-mêmes d'ailleurs, de juger de l'action d'un ambassadeur. Je crois qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions sur sa capacité à agir ou influer sur les événements. Un ambassadeur, même si j'ai fait effectivement 4 ans dans ce pays, après avoir été déjà passé 4 ans quelques années auparavant, par définition, c'est quelqu'un de passage. Et puis c'est un acteur, certes, du dispositif diplomatique, mais c'est un observateur plus qu'un acteur engagé. Et donc, c'est pas nous qui pouvons changer. Et je crois d'ailleurs fondamentalement, et quasi de manière philosophique, je dirais que c'est pas les partenaires internationaux, quels que soient leurs efforts, les efforts qu'ils peuvent faire, qui vont changer le destin ou la vie d'un pays. C'est les acteurs nationaux eux-mêmes, et donc les Congolais et ceux qui les représentent ou qui les dirigent. Donc,
mais vous pouvez faire un petit bilan vous-même.
Je pense que avec la possibilité d'une rétrospective en quelque sorte que me permet le fait que j'ai fait 2 séjours ici, si on regarde l'évolution depuis 2003, j'ai évoqué tout à l'heure la situation très particulière dans laquelle je suis arrivé ici en 2003 compte tenu de la période de transition que j'ai vécue, le pays a très clairement progressé sur le chemin de la mise en place de ses institutions, progressé sur le chemin du développement, progressé sur le chemin de la stabilité, de la paix, même s'il y a encore malheureusement des zones agitées de conflits où les groupes armés continuent à sévir. C'est quand même globalement positif. Et quand on dit globalement positif, c'est une expression qui est un peu passe-partout, mais qui en l'occurrence recouvre une réalité vivante, c'est que la situation s'est globalement, sensiblement améliorée. Maintenant, encore une fois, il faut bien, quand on regarde justement en arrière, il faut bien voir d'où vient la RDC, si je puis dire, et ensuite essayer de se poser la question de savoir où elle va. D'où vient la RDC? La RDC a connu une longue période de manière de gabegie ou de mauvaise gouvernance ou de mauvaise gestion à la fin notamment à la fin ou pendant le régime Mobutu. Ensuite, a connu des guerres pendant quasiment 7 ou 8 ans. On dit que ça a même été la première guerre mondiale africaine de 98 à 2003. Donc, on ne se remet pas d'épisodes aussi difficiles et aussi douloureux d'un claquement de doigts ou en quelques mois ou voire même quelques années. Donc, c'est un long processus. J'espère simplement avoir modestement contribué, accompagné ce processus de remise en œuvre de l'État congolais, parce que c'est important. Pour nous, on a une culture étatique très forte en France, et pour nous, le fait que l'État puisse jouer son rôle dans tous les secteurs de son activité et de sa souveraineté est quelque chose d'essentiel. Donc il y a quelques réalisations sur lesquelles j'ai beaucoup mis l'accent et où je pars avec une certaine fierté, j'espère légitime. Je pense par exemple à la mise en place de l'ENA congolaise, qui me paraît un outil d'avenir pour le pays. Je pense à la mise en place du contrat de désendettement développement, qui nous a permis d'être beaucoup plus présents en termes d'accompagnement du développement du pays, notamment sur le secteur de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'eau, de la gouvernance financière et de la gouvernance administrative. Donc on a différents secteurs sur lesquels nous intervenons. On n'est pas, en termes de volume d'aide financière, parmi les premiers donateurs pour la RDC, mais j'espère que les actions qu'on a pu mener, mettre en place, et qui j'espère se poursuivront, ont été pertinentes, utiles, et donc, bon, je vais dire immodestement, puisqu'il vous m'y poussez, que je pars avec le sentiment du devoir accompli, mais aussi quelque part avec le sentiment de quelque chose d'inachevé, parce que encore une fois, c'est un processus qui est forcément long et qui devra se poursuivre, et je ne doute pas que mon successeur et mes successeurs même à venir continueront à tracer ce chemin d'une coopération bilatérale active, efficace, j'espère, et en tout cas fondée avant tout sur le dialogue avec les autorités. Comme tous les partenaires, nous essayons de tenir compte, évidemment, des priorités fixées par le gouvernement lui-même, et c'est un processus de dialogue permanent qui nous permet, j'espère, d'être les plus pertinents, les plus efficaces possibles, et d'agir là où on peut être le plus utile. Donc je pars content, mais en même temps avec un sentiment qu'il reste beaucoup de choses à faire.
Alors, monsieur l'ambassadeur, vous partez content, mais quel souvenir vous gardez de ce grand pays, de la RDC?
Ben, j'aurais forcément été marqué. D'abord, c'est le pays dans lequel, dans ma carrière professionnelle, j'ai passé le plus de temps. C'est pas si fréquent que ça de revenir à une aussi brève échéance deux fois dans le même pays. J'aurais passé 8 ans au total. Je m'y suis marié. Ma première fille, ce mariage y est né. Enfin, elle est née à Paris, mais a vécu ses premières années ici. Donc, au-delà même de l'aspect professionnel et puis de tous les contacts que j'ai pu avoir avec les Congolais de tous les niveaux, si je puis dire, socio-professionnels, ce pays m'aura forcément marqué. Et j'en garderai un très bon souvenir, un souvenir d'une population accueillante, malgré les difficultés qu'elle vit. Souriante souvent, pleine d'humour, et je pense que c'est indispensable quand on vit justement dans des conditions quelquefois difficiles. Les Quinois notamment sont très inventifs et savent vous faire rire et rire eux-mêmes, y compris leurs propres difficultés. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait frappant. Et puis aussi une chose qui m'aura beaucoup marqué, enfin, c'est évidemment pas, je suis pas le seul observateur de cette réalité, mais quelque chose qui nous aura beaucoup marqué tous, je crois, c'est la créativité artistique, culturelle de la République démocratique du Congo et des Congolais évidemment en général. Il y a en ce moment même à Paris une exposition qui remporte manifestement un très grand succès et que je me précipiterai pour aller voir dès que je vais rentrer, Congo Kitoko, à la Fondation Cartier. C'est une des illustrations de tout ce que le Congo a apporté depuis très longtemps, puisque je crois que l'exposition commence dans les années 1920-25 jusqu'à quasiment aujourd'hui. Donc, et on voit bien à travers, là en l'occurrence, une exposition consacrée aux arts plastiques, mais c'est vrai dans la chanson, même dans le cinéma, dans la musique bien sûr, dans le théâtre, etc., etc., dans la littérature, que le Congo et les Congolais ont fait preuve d'une créativité extraordinaire, continuent d'ailleurs à faire preuve d'une créativité extraordinaire, et ont beaucoup apporté, au-delà de l'histoire politique de ce pays, ont beaucoup apporté au continent africain, et même bien au-delà, à la vie culturelle internationale en général. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'aura beaucoup marqué.
Vous avez appris quelques mots du Lingala?
Non, à part Mbote, je suis malheureusement pas très lingalophone. Mais je retiens la formule du gouverneur de Kinshasa au moment du sommet de la francophonie que vous évoquiez tout à l'heure. Mbote, souriez, vous êtes à Kinshasa. J'ai toujours trouvé ça extraordinaire, enfin, très, très bien trouvé. Mais non, je suis malheureusement, j'aurais pas appris, ce sera peut-être un des défauts avec lesquels je partirai. J'ai pas appris le lingala malgré 8 ans de présence ici. Ce qui est effectivement pas très brillant, je vous l'accorde, mais il faut un peu de temps quand même pour s'approprier une langue.
Et 4 ans, c'est suffisant.
Oui, mais comme ici, les gens, en fait, on est prisonnier quelque part ou piégé par la facilité. Parce que comme ici, les gens, tout le monde parle français. Alors évidemment, avec des degrés de maîtrise plus ou moins importants, mais enfin, tout le monde parle français. Vous allez au marché, vous pouvez parler français avec les gens. Donc vous n'avez pas d'effort à faire. Quand vous êtes dans un pays anglophone, vous parlez anglais ou vous ne parlez pas anglais. Si vous ne parlez pas anglais, ça devient compliqué. Quand vous êtes dans un pays francophone, oui, certes, le lingala est une langue, ou le ici, ou le swahili d'ailleurs, ou d'autres, est une langue qu'utilisent les Congolais au quotidien, mais comme si quand vous adressez à eux, ils vous parlent et ils vous répondent en français, vous n'avez pas l'effort presque obligatoire à faire pour pouvoir maîtriser la langue. Donc ce sera pour mon prochain séjour.
Mais vous avez goûté quand même au mets congolais?
Ah, absolument. Je suis même un grand adepte de la cuisine congolaise. Et là encore, je vais vous raconter l'anecdote. Il se trouve que j'aime beaucoup, parmi mes... Il y en a d'autres, hein, évidemment, mais mes plats ou mes mets préférés, il y a les chenilles et les bossés, le caviar congolais. Et quand je suis arrivé ici, c'était en 2011, mais en 2012, mes parents sont venus... passé quelques semaines ici, notamment à l'occasion du 14 juillet, et mon épouse a emmené ma chère mère au marché de Simba Dikita pour lui montrer ce qu'était un marché congolais, où elle allait régulièrement elle-même, et puis une vendeuse s'est approchée au moment où elles arrivaient en disant « Ah madame, regardez, j'ai des chenilles », donc un truc qui grouillait, vivant, etc. dans la bassine, comme vous le savez tous. Et puis ma chère mère, qui est très occidentale, a eu une réaction horrifiée en disant « Mais c'est quoi ça ?» On dit « Mais c'est des chenilles ». Et mon épouse lui a dit « Et en plus, Luc aime beaucoup ça ». « Comment? C'est pas possible. Il mange des chenilles comme ça ?»« Ben oui, bien sûr, je mange des chenilles, des possés, des sauterelles. » Avec grand plaisir.
Alors, vous avez rencontré aussi des artistes à Kinshasa, la musique congolaise. Comment vous la trouvez?
J'allais employer une expression qui est un peu trop passe-partout, très, très entraînante, très vivante. Mais ce que je préfère en termes de musique... et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai proposé un groupe de musiciens traditionnels et un peu âgés de venir se produire à l'occasion du dernier 14 juillet à Villance. C'est la rumba congolaise d'origine. Je trouve que c'est bon, il y a eu beaucoup d'évolutions, il y a des rappeurs, des chanteurs de hip-hop qui ont une notoriété internationale congolais que j'admire aussi, mais pour moi les racines de la musique congolaise, c'est dans la rumba et en plus ce pont que crée la rumba congolaise entre Cuba, l'Amérique latine et la RDC, je trouve ça vraiment très passionnant. Et j'aime bien ce rythme, je suis un très mauvais danseur pour répondre à la question que vous aviez posée. Mais pour autant, j'aime bien ce rythme de la rumba congolaise et puis ce mélange, mais encore une fois, c'est là où il y a un pont extraordinaire entre l'Amérique latine et Cuba notamment, et un peu le Brésil aussi, et la RDC, c'est... ce mélange de joie et de mélancolie à la fois dans cette musique qui est assez frappant.
On va souffler un peu avec une rumba congolaise, puis on se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Bye. De leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kelly Kouté sur Radio Okapi.
Et Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui l'ambassadeur Luc Allade, ambassadeur de France en RDC qui est fait un mandat. Monsieur l'ambassadeur, lors de votre message de revoir à votre résidence, vous avez lâché une phrase qui a suscité, qui a créé la polémique dans la classe politique congolaise et même au sein des Congolais. Vous avez dit ceci exactement.
Il faut savoir quitter le pouvoir comme il faut savoir quitter ses fonctions, aussi intéressante et prestigieuse soit-elle. Est-ce que c'était une attaque personnel, est-ce que c'était un message adressé aux autorités congolaises?
Alors, sûrement pas, et surtout pas une attaque personnelle, évidemment. D'abord, vous remarquerez qu'il n'y avait aucun nom ni aucune échéance qui était mentionnée dans ce propos, qui certes a un peu fait polémique à l'époque, mais je crois surtout que c'était, enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'avais compris ou entendu, pour ce qui me concerne, que c'était un message à l'intention de, je dirais, du monde politique congolais, et plus que du pouvoir congolais en tant que tel, du monde politique congolais. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, moi il y a quelque chose qui m'a frappé, et avec un peu de regret je dois dire, c'est que, bon, c'est pas spécifique à la RDC certes, mais quand même, il y a beaucoup, passez-moi cette expression, de petits arrangements entre amis, comme dit le titre d'un film bien connu, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Et je crois, mon sentiment, c'est que tout le monde politique, et encore une fois, je ne vise personne en particulier, c'est vrai, assez largement, du spectre politique congolais que j'aurais quand même beaucoup fréquenté, il me semble que ce qu'il faudrait que tout le monde ait bien en tête, et en tête de liste des priorités en tout cas, c'est certes le développement du pays, mais le bien-être de la population. Et qu'il me semble, pour être un peu critique, j'espère que je ne vais pas encore provoquer de nouvelles polémiques, parce que c'est pas l'intention, mais que c'est quelque chose qui devrait être davantage en tête de l'agenda, et encore une fois, c'est pas dirigé vers tel ou tel responsable politique en particulier, mais plutôt en général, qui devrait être en tête de l'agenda des responsables politiques de ce pays. Le pouvoir, c'est une chose, c'est important, bien sûr, et partout, dans tous les pays au monde, dans une démocratie, ou même dans tous les pays du monde, d'ailleurs démocratique ou pas, on se bat pour conquérir le pouvoir, ou pour le conserver quand on l'a. C'est normal, ça fait partie de la vie politique habituelle. Mais le pouvoir en tant que tel, à mon sens, alors moi je n'exerce pas de pouvoir politique, peut-être même pas de pouvoir du tout d'ailleurs, mais le pouvoir en tant que tel, il est fait, me semble-t-il, et ça je pense que tous les citoyens de tous les pays du monde partagent ce même espoir, il est fait pour servir les autres, avant tout. D'ailleurs, il y avait une expression bien connue au Congo qu'avait inventé le maréchal Mobutu à l'époque, servir et non se servir, qui est resté dans toutes les mémoires. Mais justement, c'est quelque chose qui me paraît important, c'est de savoir, quand j'ai dit il faut savoir quitter le pouvoir, encore une fois, je n'ai pas cité de nom et je n'ai pas donné d'échéance, je me garderai bien d'interférer autant dans le débat politique interne de la RDC, mais je crois qu'il faut effectivement avoir conscience du fait que le pouvoir, c'est fait pour développer le pays, et les dernières années, comme je l'ai dit, Marc montre bien qu'effectivement, il y a eu des efforts significatifs qui ont été faits, mais qu'il arrive un moment où, effectivement, chaque responsable devrait s'interroger sur qu'est-ce qu'il peut apporter, quel est le meilleur service qu'il puisse rendre à la nation, et encore une fois, sans prendre portée de jugement ou sans prendre de position quelconque, parce que je dérogerai de mon rôle, je pense que ça mérite réflexion, et donc c'était une invite à la réflexion sur ce thème, et c'est pas, contrairement à ce que certains ont pu dire ou penser, c'était pas dirigé spécifiquement vers telle ou telle personne. Quand on dit il faut savoir quitter le pouvoir, c'est pas seulement le président de la République qui doit se poser la question de savoir s'il doit se maintenir ou pas au pouvoir, c'est l'ensemble de la toute classe politique. Le principe, bon, alors nous qui sommes une vieille démocratie imparfaite, hein, parce qu'aucune démocratie n'est parfaite, on a acquis cette habitude, cet entraînement en quelque sorte à l'alternance politique. Pour une jeune démocratie qui est la République démocratique du Congo, c'est pas évident. Nous-mêmes, on a connu beaucoup de soubresauts avant d'accepter l'idée que les élections doivent être organisées de manière transparente, pouvoir aboutir à un changement de pouvoir, de manière pacifique, apaisée, etc. C'est pas une tradition congolaise. L'histoire fait que ça n'est pas une tradition ici. Donc c'est quelque chose qu'il faut, comment dire, inculquer progressivement. Les bonnes habitudes, elles se prennent en marchant et donc en avançant toujours. Et je pense qu'encore une fois, c'est l'ensemble de cette classe politique et pas seulement telle ou telle personne, fût-elle la plus haute responsabilité du pays, qui devrait s'interroger sur les modalités de mettre en place une alternance. Encore une fois, quelle que soit la forme de l'alternance, comme j'ai dit, l'essentiel c'est qu'elle se passe de manière démocratique. Il ne devrait pas, me semble-t-il, y avoir de pouvoir à vie, comme il devrait. Et quand je dis pouvoir, c'est au sens classe politique, c'est pas au sens responsabilité du président de la République en tant que tel. C'est toute la classe politique devrait, me semble-t-il, réfléchir ensemble à cette problématique.
Monsieur l'ambassadeur, c'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Vous avez peut-être un message adressé à tous ces Congolais qui nous suivent en ce moment sur Radio Kati.
D'abord, merci de l'invitation à participer à votre émission. Ça a été un plaisir partagé, pour moi aussi. Et puis, si j'ai un message avant de partir et avant de quitter ce beau pays, c'est un message d'espoir. Encore une fois, on ne quitte pas un pays dans lequel on a passé autant de temps et avec autant d'engagement sans garder à la fois des souvenirs, mais aussi un regard sur la manière dont les choses se déroulent, vont se passer. Donc même si je n'aurai évidemment plus de rôle actif, même d'observateur sur le terrain de ce que va devenir la RDC, je garderai un œil sur la manière dont les choses vont évoluer par intérêt personnel, parce que j'ai à cœur de voir ce pays aller dans le bon sens et continuer sur la voie du progrès. Et donc mon message, c'est un message d'espoir. J'espère que effectivement, pour tous les Congolais, quels qu'ils soient, demain sera encore plus beau qu'hier, que l'avenir sera paisible et que les problèmes que connaît ce pays, qui sont importants, il saura les dépasser en mobilisant toutes les énergies positives qui peuvent exister dans la société congolaise. Et il y en a beaucoup.
Alors une dernière petite question de curiosité, est-ce qu'on peut savoir ce qu'il fallait faire maintenant?
Oui, écoutez, je vais prendre mes nouvelles fonctions auxquelles le gouvernement français a bien voulu me nommer. Je vais être ambassadeur délégué à la coopération régionale dans l'océan Indien. Ça veut dire en clair que je vais m'occuper d'essayer de coordonner l'action des différentes institutions françaises, qu'elles soient centrales au niveau des ministères ou locales, au niveau des préfectures, des collectivités territoriales françaises ou des ambassades de la région, pour essayer d'impulser la coopération régionale dans l'océan Indien et d'y rendre encore plus positive la présence française dans cet océan. Et donc c'est, comme je vous l'ai dit, une région que je connais assez bien pour y avoir déjà beaucoup travaillé et que je retrouverai avec grand plaisir dans les jours qui viennent.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Un grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Luc Alade, ambassadeur de France en RDC, qui est fin mandat. Merci à Guy Manzangou qui est à la prise de son, micro Kéline Couté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bon dimanche à vous et bonne suite de programme sous la fréquence de la paix.